Bonjour, Denis Ouellet.
Bonjour, M. Saint-Pierre.
Hey, déjà 10 ans, pas croyable.
Oui, en fait, mais en fait, vous avez un peu raison dans ce que vous venez de dire, c'est que le parc a été créé, c'est-à-dire en vertu d'un décret ministériel, le 18 novembre 2009, mais il y a eu tout de même 3 ans et demi de travaux et l'ouverture au public s'est faite en 2013. Donc, okay. Effectivement, il y a 6 années d'opération.
Bon.
Et cette année, on embarque dans notre 7e.
Comme dirait l'autre, me semblait aussi. Monsieur Ouellet, on parle quand même d'un taux d'achalandage en constante progression.
Oui.
Qui serait le taux là, le plus élevé de croissance de tous les parcs nationaux gérés par la CEPAC? Est-ce qu'il y a des nuances à apporter quand même, là?
Oui, dans le communiqué, on disait parmi les parcs ayant le plus haut taux de croissance. L'an passant, on était l'ensemble des parcs nationaux, on était le troisième parc en termes d'augmentation en pourcentage là, de l'achalandage.
Okay.
et du chiffre d'affaires, oui.
Bien. Quand on a vendu le parc national au Témiscouatin, quand on a vendu le parc national tout court,
oui.
On a comparé les chiffres du parc national du Bic, on parlait de 100 000 visiteurs, on parlait même de 150 000. C'est certain que la progression est intéressante,
oui.
Mais le chiffre magique du 100 000,
oui.
C'est pas demain matin qu'on va voir ça, là, je pense
pas. C'est pas demain matin. Bon, il y a une croissance. Combien, on disait une centaine de mille sur une dizaine d'années. Bon, on a 6 années d'opération là, de réaliser. Il y a une augmentation. Est-ce que dans 4 ans, on va être à 100 000, plus ou moins? Il demeure que là, à l'heure actuelle, avec l'achalandage qu'on a, les périodes plus au centre de la saison estivale, on affiche pratiquement complet là, à tous les jours là, pendant, je pourrais dire, 5-6 semaines. Le défi qu'on a, comme l'ensemble des intervenants touristiques là, qu'on a en région, c'est bien sûr de prolonger la saison. Donc, essayer d'aller chercher plus de clientèle en début et en fin de saison. Et c'est le défi qui nous attend là, pour pouvoir poursuivre cette augmentation-là.
Ouais. Quand on dit que on arrive finalement à la 7e, 8e, 9e, 10e année, est-ce que y avait aussi des phases auxquelles on s'était engagé dans ce parc-là? Et encore là, je prends une chance de vous poser la question avec les nuances que ça apporte.
Oui.
Je pense qu'il y a une phase, là, ou une deuxième ou une troisième, qui est encore en suspens. En fait, le parc n'est pas encore dans ses grosseurs, comme dirait Victor Lévy-Beaulieu. Et si je me trompe, reprenez-moi. Si je me trompe pas, dites-moi ce qu'on tarde à faire.
OK. Ben en fait, vous avez pleinement raison. Lors de la création d'un parc, il y a le ministère établit ce qu'on appelle un plan directeur. Qui donne un peu les grands paramètres là, du développement futur sans avoir... C'est un plan général et qui doit être assorti après ça d'enveloppe budgétaire pour pouvoir réaliser l'ensemble des infrastructures. Donc, lors du décret de création du parc, il y a eu une enveloppe de 30 millions qui a été octroyée et, bon, tout le monde s'accordait à dire que c'était pour la phase 1 dans le sens suivant, c'est que pour construire l'ensemble des infrastructures qui étaient prévues au plan directeur, on parle d'une cinquantaine de millions.
Ouais.
Donc, il y a eu des choix qui ont dû être faits à l'époque pour prioriser finalement les secteurs de développement et c'est là, bon, le Grand Lac Touladie, l'Anse à William et le secteur de Dégelis ont été priorisés. Mais il y a tout un secteur qui s'appelle la Grande Baie. Vous qui êtes navigateur sur le lac.
Je l'étais.
Vous avez enlevé votre bateau de notre beau lac.
J'ai vendu l'automne passé, monsieur.
J'espère vous le regrettez un peu. Vous avez un masse d'amis à Marina pour pouvoir aller prendre des balades de temps en temps.
Ben, c'est plus ça.
Donc, pour revenir à ce que je disais, le secteur de la Grande Baie, c'est un secteur à énorme potentiel où il y a prévu au plan directeur provisoire un camping, centre de service et tout ça, et la proximité de la 185 et tout ça ouvre aussi des belles possibilités. Mais bon, comme tout projet, il fallait commencer par marcher avant de courir, s'assurer que de construire les infrastructures, commencer à opérer, comme on dit, la business, et s'assurer aussi de construire des infrastructures qui répondaient à une demande. On peut faire des études de marché, estimer qu'on va avoir tant de clientèle, mais il faut le vivre, là, comme on dit, de jour en jour. Et là, ben, ce qui est intéressant, c'est que on a atteint des taux d'achalandage, tu sais, on a des pourcentages, mettons, d'occupation de nos campings, de nos prêts à camper, qui ressemblent à la moyenne du réseau, même dans certains cas, oui, un petit peu plus élevé.
Oui.
Donc, ça veut dire que, déjà, on peut dire que peut-être on pourrait penser à une deuxième phase, mais ça devient une question aussi de volonté du milieu, ça devient aussi une question de volonté gouvernementale, et je pourrais vous dire qu'il n'y a pas eu de démarches qui ont été faites dans ce sens-là.
On n'est pas là, là.
On consolide nos infrastructures. Okay. L'augmentation, comme on dit, est intéressante, mais effectivement, dans le plan directeur du parc, en lien avec, après ça, le désir futur, les possibilités, il y a des possibilités de développement encore.
Monsieur Ouellet, quand les gens vont s'inscrire au parc national, quand ils vont payer leur droit d'entrée de camping ou de sentier ou n'importe quoi, puis qu'on demande le code postal, est-ce que je me trompe s'il y a à peine 1% des visiteurs dont le code postal correspond au Témiscouata ou à Rivière-du-Loup?
J'ai pas ces statistiques-là. Effectivement, ça, plus de 50% de notre clientèle provient de je pourrais dire du grand Montréal, c'est-à-dire la couronne nord, la couronne sud. Ça, c'est 50% de notre clientèle. Faut dire que oui, il y a eu beaucoup de visiteurs qui venaient du Bas-Saint-Laurent, du Témiscouata, mais on entend encore beaucoup de gens nous dire: ah mon Dieu, il faudrait bien que j'y aille, tu sais. J'en ai entendu parler, il faudrait bien que j'y aille. Mais ça, c'est un peu un réflexe qu'on a tous. Quand on a quelque chose de tout près, on se dit tout le temps, on a l'occasion d'y aller quand on veut, puis des fois, ben, ça passe à côté, puis on va faire des petits voyages à l'extérieur. Mm-hmm. Fait qu'effectivement, il y a encore plein de gens là qui ont l'intention de venir, mais qui sont pas encore venus
nécessairement. Et peut-être aussi, M. Ouellet, c'est pas pour trouver une excuse, mais ça pourrait être rien que normal, c'est quand tu vis déjà dans la nature, t'as moins le goût d'aller à la nature, t'es dedans. Alors que quand tu vis à Laval, à Montréal, à Brossard, même à Sherbrooke ou Trois-Rivières, t'es peut-être plus tenté de descendre dans le bas du fleuve ou d'aller dans un autre parc national pour avoir rendez-vous avec la nature, ce que t'as pas dans ton quotidien.
Vous avez absolument raison.
OK. Monsieur Ouellet, est-ce que on a réussi, et je pense que la réponse est oui, là, à obtenir un bel équilibre entre l'usage des plaisanciers, les zones d'accès, et tout ça, parce que au départ, moi je me souviens, puis vous l'avez mentionné, j'étais sur le lac à ce moment-là, les plaisanciers avaient une peur terrible d'avoir toujours aux fesses les gardiens du parc national. Ça, je pense que cette crainte-là s'est estompée assez rapidement, puis il y a une collaboration et une cohabitation harmonieuse.
Oui, effectivement, puis vous avez eu l'occasion de le vivre aussi au départ. Tu sais, un développement, des éléments nouveaux, des fois, ça peut susciter de l'inquiétude. On avait ce genre d'inquiétude-là au niveau des plaisanciers, à savoir, parce qu'on sait que le parc déborde à peu près 200 mètres de la partie terrestre sur le lac Témiscouata, et les gens se questionnaient: est-ce qu'on va pouvoir naviguer dans cette bande-là? Puis ça, c'était une des grandes interrogations. Puis effectivement, les gens peuvent naviguer comme ils le faisaient avant, sans nécessairement avoir besoin de droit d'accès au parc, tant aussi longtemps qu'il demeure sur l'eau comme tel. Il y a des limites de vitesse aussi là qu'on demande finalement aux plaisanciers qui s'approchent des rives du parc. Tout simplement une question de cohabitation aussi avec les canots puis les kayaks qui circulent beaucoup, exemple dans l'anse à William.
C'est ça.
Et je pense que j'appelle ça ce civisme-là de la part des plaisanciers, c'est inculqué très rapidement pour, comme on dit, je pense que le lac est assez grand, que tout le monde peut avoir du plaisir dessus, et de laisser un peu les rives à proximité du parc là au plaisir de ceux qui font du kayak et du canot, puis éviter le balayage, bien sûr.
Denis Ouellet, merci, bonne saison.
Ben, c'est un grand plaisir.